Ah, ça enregistre ?
Bah non.
Ah, mince. Ah, déjà. Nous recevons aujourd'hui celui qui s'amuse avec les mots, improvise, chronique, écrit, toujours en quête d'un quidam sur le macadam, carnet à la main pour ne pas perdre une miette d'un quotidien anodin à nos yeux, qui chez lui se sublime. Vous voyez des déchets sur le trottoir, lui, il voit un herbier de bitume. Nicolas Turon, bonjour. Bonjour. Je suis Lou.
Bonjour, bonjour.
Je suis Julien.
Et je suis Diego.
Et nous sommes ravis de vous avoir au micro de notre émission PEVFM. On va vous poser quelques questions. Comment faites-vous pour transformer le quotidien en œuvre artistique ou littéraire ?
Alors déjà, merci pour cette présentation, parce qu'elle a rarement été aussi bien faite. C'est une déformation professionnelle. On a l'habitude avec les élèves en classe de s'entraîner à observer les détails qui ont l'air anodins pour le commun des mortels, mais qui pour ceux qui pensent qu'on peut raconter des histoires à partir de n'importe quoi, sont capables de s'emparer d'une toute petite chose pour en faire un ressort narratif. Et donc ça devient une déformation professionnelle. Est-ce que tu as vu le film Matrix ?
Oui.
C'est un peu une rêve de vieux, mais tu vois, quand ils sont dans la matrice, il y a plein de petits chiffres comme ça, comme si on entrait dans l'épaisseur des choses. Ben, je trouve que l'écrivain, c'est un petit peu ça. Quand je me promène dans la rue, si je suis en situation professionnelle, parce que je peux aussi avoir le nez dans mon portable ou me promener simplement, mais je vais vraiment guetter partout et être à l'affût de du moindre départ de feu narratif.
Ouais, donc c'est vraiment être toujours à l'affût dans vos balades, entre guillemets.
Oui, j'explique aussi aux élèves que l'imagination, c'est un muscle. Donc plus on va à la salle de l'imagination, plus on est Thibaut in shape de l'imagination. On est capable de développer ça. Et puis moins on regarde autour de soi, moins on lit, moins on joue aux jeux vidéo, moins on regarde de séries, ben, plus le muscle s'atrophie et moins on devient malin.
Quels sont dans notre studio les petits détails qui déclencheraient votre imagination ?
Oh, bah, il y a un petit autocollant Fantasticar là-bas que je vois tout de suite. Donc on pourrait s'amuser à inventer avec les élèves des films d'horreur qui se passent dans le collège, par exemple. Ça pourrait être un déclenchement narratif. Je vois qu'il y a deux patères là-haut, un porte-manteau qui n'est composé que de deux patères. Voilà. Je ne sais pas si on pourrait faire une faute d'orthographe au livre de Sylvain Tesson et imaginer quelqu'un dans cette salle de classe qui se planque pendant 6 mois pour espérer apercevoir la patère des neiges, je ne sais pas. Voilà, en improvisation.
Vos textes sont riches en jeux de mots. Vous vous amusez avec la langue française, c'est inné ou c'est un travail d'écriture et de réécriture ?
C'est un muscle aussi. Bon, après, les jeux de mots, moi, plus ils sont mauvais, plus ils me font rire. Donc là-dessus, on est pas mal. Oui, c'est un art qu'on est plusieurs à partager. Hein. Je vous vois vous regarder. mais effectivement, c'est un muscle aussi qu'il faut travailler. Et c'est surtout, je crois, le jeu de mots, un art à pratiquer collectivement. C'est assez chouette quand on peut faire de la surenchère et qu'on est avec des copains. Voilà.
C'est vrai que c'est assez drôle.
La collection de petits polars dont j'écris à présent le 85e opus, c'est parti d'un apéro entre deux confinements où nous consommions bien évidemment avec modération, avec des amis. Alors. Et on s'est mis à faire des jeux de mots avec des noms de communes mosellanes adaptés en titre de polar. Donc c'est vraiment parti d'un délire et c'est devenu maintenant la moitié de mon activité professionnelle.
Votre regard perçoit-il dans l'actualité de ce début d'année de quoi lui donner de la saveur ?
Donner de la saveur à quoi ?
Bah, à l'actualité, un petit peu morose ces temps-ci.
Ah ouais.
Qu'est-ce que vous pourriez en faire en fait, de l'actualité ?
Il y a 10 ans, quand j'ai 15 ans même, quand j'ai commencé la radio, je n'avais pas eu encore la chance de passer à votre micro, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce qui s'appelait encore France Bleu et ce qui s'appelle aujourd'hui Ici, j'avais un billet très sarcastique et très acéré sur l'actualité. Et puis j'en suis revenu et aujourd'hui j'ai du mal à parodier l'actualité parce que je trouve que justement elle ne s'intéresse pas aux petites choses, à ce qu'on appelle à tort les petites gens, aux petites histoires. Et du coup bah, je m'en occupe moi. Mais non, moi l'actualité elle m'angoisse comme tout le monde. Sans qu'elle m'inspire grand-chose. Non, en ce moment, j'ai juste peur. Bon, après, j'ai appelé mon fils Vadim, donc je savais que les Russes allaient arriver, mais...
les personnes que vous rencontrez, vous inspirent-elles des personnages de votre collection de polars ?
Oui, alors ça, c'est le curseur sémantique, c'est-à-dire, quand on passe d'une personne à un personnage, bah, c'est que simplement, elle est passée sur le papier et on s'en sert pour raconter une histoire. Donc oui, dans mes petits polars, il y a 95% des personnages qui sont souvent tous les personnages sauf les flics. qui sont des personnes que j'ai croisées. Ouais.
Un titre pour un polar situé à Corcieux, on vous en glisse très modestement quelques-uns au cas où. Désaccord à Corcieux, Corso Corsier à Corcieux, ça se corse à Corcieux.
Corso Corsier, Corso Corsier à Corcieux. C'est presque un vire-langue, un exercice de prononciation.
C'est vrai, ah, c'est assez. Super. Bah, j'ai buté dessus. Ouais, ouais,
non, non, c'est très bien. Il y a corps aussi dedans, quoi. Mmh. Avec un cadavre, on doit pouvoir trouver quelque chose. Mais ouais, ouais.
Ah, sympa, sympa. Après, oui, les polars, c'est des histoires policières, si j'ai bien compris.
Oui, c'est des histoires policières. Et là, je termine. Tu ferais main le malin à Merlebach, sur le pays minier de Frémin Merlebach. Voilà, avec deux jeunes qui organisent un enlèvement.
Ah, ok.
Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement?
Eh bien, l'inutile. Pour lequel je vais aller rejoindre une classe de 5e, là maintenant, dès que les micros seront fermés, est prévu pour 6 numéros ici au Pays de Corcieux. Donc ça me mène jusqu'à la fin du mois de juin. Ensuite, il y aura de grosses tournées de mes spectacles de théâtre. Et je joue notamment un Sherlock Holmes en théâtre de rue. Et puis, j'ai écrit un Sherlock Holmes. Sherlock Holmes et les Mystères d'Alsace, qui sortira dans quelques semaines. Donc là, je pense qu'il va y avoir quelques séances de dédicaces et des travaux de communication à faire.
Et le Sherlock Holmes que vous jouez sur scène, c'est adapté déjà d'un roman
de Conan Doyle.
Conan Doyle, ouais.
Oui, oui, ça s'appelle Le chien-chien des Babas Kerville. D'accord. Voilà. Et alors, on voulait exactement provoquer cette réaction avec le titre, entre le rire et le dépit.
Bon, bah, ça a bien marché.
C'est
hein.
Déjà lourd, c'est déjà chiant. Et oui, on pratique un peu ce qu'on appelle.
Ça donne envie de le voir.
Comme tous les jeunes.
Et ça, vous le jouez où donc c'est,
Et on le joue aussi dans les collèges, mes amis. Hein. Vous nous invitez quand vous voulez.
Bah, on va y réfléchir. Ouais.
Et c'est du théâtre dans lequel on partage la responsabilité de l'intrigue. Donc il y a 19 spectateurs qui sont amenés à prendre part au spectacle. Mmh. Donc, mais ouais.
Ça m'intéresse.
En fait, on va peut-être pas le faire venir à Corcieux. Hein.
Bon, bah, merci Nicolas Turon d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de faire votre rencontre. Nous pourrons très prochainement vous lire dans les prochains numéros de L'Inutile, fabriqué avec la collaboration des élèves de 5e 1.
Merci de votre invitation et j'ai croisé beaucoup de professionnels de radio qui sont vraiment moins bons que vous.
Bravo à vous alors.
Ah ouais,
pas toi, parce que t'as beaucoup bafouillé.
Ce sera coupé au montage.
Et retrouvez toute l'actualité de notre invité sur nicolasturon.com. Au revoir.
Au revoir.